France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Comment adapter au théâtre Absalon, Absalon, le roman labyrinthique sur le sud profond des États-Unis? Séverine Chavrier relève le défi haut la main. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, pour bien commencer cette émission, c'est le débat critique. Aujourd'hui, deux bandes dessinées qui nous viennent de loin. Les Moutons veulent du sel, premier roman graphique du jeune italien Emanuele Cantoro, et Ce que nous avons perdu dans le feu de l'argentin Lucas Nin, adapté des nouvelles de Mariana Enriquez. Bienvenue dans les Midis de Culture. Et bienvenue à nos critiques du jour, Catherine Robin, grand reporter et critique de bande dessinée à Elle, bonjour.
Bonjour Marie.
Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin, bonjour.
Bonjour Marie.
Ne vous fiez pas au titre bucolique « Les moutons veulent du sel ». Il est bien question de moutons et d'air iodé dans ce premier roman graphique d'Emanuele Cantoro. Mais il est aussi question de béton et de violence. Christian a 12 ans et il vit dans une tour avec son père, absent et violent, sa mère au bout du rouleau et son grand frère. Il traîne aussi avec une bande de gamins un peu paumés. On sent que l'équilibre de sa vie est bien précaire. Et de fait, un jour, tout bascule. Christian se retrouve seul, menacé par les petites frappes du quartier. Et sa rencontre avec un berger bourru, va le faire grandir. Le trait tout au crayon à papier est splendide, qui rend tour à tour corps au silence et à la violence. C'est le premier livre de Cantoro édité en France chez Ça et Là et traduit de l'italien par Aude Lamy. On commence par un avis rapide, Catherine Robin.
Eh bien, vous dites que le crayon de papier est fabuleux. Oui, j'ai adoré ce livre, notamment à cause de ce dessin qui est si fragile, si précis. L'histoire est un peu plus classique finalement, mais il y a beaucoup d'authenticité à l'intérieur et j'ai trouvé que ce livre était très juste, très beau et aussi doté d'une incroyable énergie et peut-être c'est cette énergie de l'enfance qu'il y a dans ce livre.
Victor Massé de l'Épinay.
Je partage le sens de la subtilité que Catherine vient de nous confier, mais moi, le crayon papier m'a posé quelques questions.
Très bien, on va pouvoir discuter de tout ça. Alors Catherine Robin, pour commencer, l'énergie de l'enfance dans ce livre.
Oui, vous l'avez dit, l'histoire au départ, elle est assez classique avec ce père défaillant, alcoolique, une mère courage, un frère très bienveillant et puis une bande de copains à la fois à la fois sympa et plein de cruauté donc il va rencontrer j'avais très envie de démarrer, pardonnez-moi, mon intervention sur la forme et sur ce crayon de papier parce que en plus Victor vient de le mentionner, mais parce que encore une fois l'histoire est assez classique et puis ce jeune garçon va rencontrer un berger et qui va un peu changer sa vie. Faut pas en dire trop parce que ce titre un peu énigmatique avec ses moutons, on sait pas trop d'où ça vient. Mais sur ce crayon de papier, je voudrais revenir sur l'effet premier que ça fait quand on ouvre l'émotion qu'on ressent quand on ouvre le livre au départ. On peut vraiment croire à du gribouillage, à quelque chose de griffonné, un trait qui est fait très très vite. Or, je trouve qu'il faut passer cet a priori de la simplicité ou du gribouillage pour s'arrêter sur le dessin et voir que on est plutôt dans la beauté pure du dessin, je trouve, rendu à sa plus simple expression, parce qu'il y a dans l'imprécision du trait justement une grande précision. Mmh. Et on est dans l'anti-ligne claire totale. Ouais. Et pourtant, tout est clair. Donc, c'est ça qui est vraiment très réussi. Il y a aussi une utilisation, en tout cas, une matérialisation du mouvement qu'il emploie de différentes manières. C'est-à-dire, il va dessiner des silhouettes d'un trait presque imperceptible qu'il va dupliquer comme ça pour créer un mouvement. Ou sinon, il va utiliser une gomme pour un peu créer un nuage de graphite, comme ça, de crayon de papier, et qui va créer des effets très, très beaux. Et je trouve que c'est vraiment... on rentre dans cette histoire encore une fois, qui est assez classique, mais qui est très belle pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais c'est vraiment le dessin qui est, qui est ahurissant dans ce livre.
Alors Victor Massé de l'Épinay, vous, le dessin, problème.
Oui, c'est intéressant. Je vois qu'on a les mêmes comparaisons, les mêmes éléments de langage avec Catherine que ce que j'avais prévu de dire, mais pas tout à fait les mêmes conclusions. Sur l'histoire qui est un peu classique, je partage son avis. Je trouve quand même que c'est une histoire qui est très belle, classique, sur la sortie de l'adolescence. C'est un petit gamin qui a 12-13 ans, qui est avec ses copains italiens. La mer est à 40 minutes à pied, mais il n'a jamais vu la mer. Ça paraît presque incroyable, mais c'est voilà, cette misère sociale et affective. C'est quelque part très italien aussi. C'est le réalisme italien du cinéma de J.P. dans la bande dessinée. C'est ces bandes d'ados qui traînent à scooter et qui font même pas des grosses bêtises, qui n'en sont pas encore à la drogue, mais qui glandouillent. Et puis il y a ce berger étonnant, puisque sorti un peu de nulle part, un vieil homme barbu avec sa mule et son petit troupeau de moutons, il a quoi, 25 bêtes, et qui vit dans cette zone un peu interlope entre la mer donc et puis presque la banlieue, une zone périurbaine, et il se balade avec ses moutons de friche en friche. Bon, il y a quelque chose de très, oui, en effet, assez classique sur le propos. C'est un jeune homme qui va sortir de l'adolescence, d'un environnement familial un peu toxique et même amical, un peu toxique, pour aller vers une forme de liberté dont on ne sait pas trop ce qu'elle lui promet. Mais pour le dessin, en effet, moi, ça m'a posé question, parce que la première image m'a fasciné. On voit un paysage, une petite cahute de berger, une mule ou un petit cheval accroché, un chien et quelques moutons qui sont extrêmement bien dessinés. On voit qu'on a affaire à un vrai dessinateur au crayon à papier, un arbre aussi avec des volumes et des masses de noir et de gris qui sont très justes. Et il y a quelque chose de sublime, comme ça les masses sont bien jetées, l'équilibre, la composition est parfaite. À d'autres moments, ce dessin au crayon papier, moi, m'a dérangé, en particulier dans les moments d'action, les moments où les plans sont plus serrés, c'est-à-dire, en fait, dès la deuxième page, je crois, quelques pages plus loin. Et puis les lettres, en fait, ce qui fait aussi la bande dessinée, les bulles, les lettres, les sons. Là, il y a quelque chose qui devient un peu plus, un peu plus organique, un peu plus rapide, mais un peu, quelquefois moins lisible aussi, il faut bien le dire. Et je me suis demandé pourquoi. En fait, je me suis demandé ce que ça apportait d'en rester au crayon papier. Sans dire, ce qui compte, c'est la ligne claire, et il fallait après ancrer tout ça, c'est pas du tout ce que je veux dire, ancrer tout ça et rendre tout ça propre. Mais là, il y a des traits de gomme, il y a des fantômes un peu, on voit des choses qui ont été mises en place puis qui sont repassées par-dessus. Et quelquefois, ça fait des choses qui sont un peu sales à dessin, et quelquefois pas très claires dans l'action. La mère meurt, la mère du jeune garçon meurt. Fallait peut-être pas le dire. Bon, c'est assez tôt dans l'histoire. Mais moi, j'ai pas bien compris comment elle mourait, pourquoi elle mourait. Ouais. Alors là, voilà, j'en dis pas trop, mais le dessin n'est pas très clair. J'ai trouvé. Le père est pochetron, alcoolique.
Oui, est-ce
qu'il a de la drogue ou pas de la drogue?
Je me suis interrogée, mais...
Voilà, et ça, je me suis dit, est-ce que le dessin laisse ce champ d'interprétation volontairement ouvert, ou est-ce qu'il y a quelque part quand même, pour ces moments un peu rapides, une maladresse? Bon, en même temps, c'est pas toujours le cas, parce que par exemple, la poursuite à scooter est plutôt bien rendue.
Oui, les poursuites en scooter dans la cité sont...
Ça, c'est... Voilà, mais moi, je me suis demandé, on s'habitue beaucoup aujourd'hui, quand on en lit beaucoup de bandes dessinées, à toutes sortes de traitements graphiques. Là, la narration est bien maîtrisée, le scénario est bien, mais le dessin pur, je me suis dit, pourquoi est-ce que quand on dessine comme ça, il y a quelque part cette disparité dans le dessin que j'ai senti, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui s'est dessiné, encore une fois.
Moi, j'ai pas du tout senti de disparité. J'ai trouvé que ça convenait, et encore une fois, il joue avec nous de ça, parce que encore une fois, si on s'arrête à la première impression, il y a cette impression que vous dites, Victor, mais je trouve que sinon, je ne vois pas du tout d'imperfection dans le dessin. Et quand vous parlez des cases et de l'écriture, moi, j'ai pas trop pensé à la forme, c'est vrai. Alors que j'y suis sensible généralement à la typo des bulles. Mais j'ai trouvé justement que c'était
elle est
si
comment,
bien
là,
traduit.
Justement, la typo des
bulles. Elle est vraiment très rapidement. Elle a pas vraiment d'unicité. Elle est vraiment dessinée assez rapidement, sans qu'il y ait vraiment d'unicité des lettres et de travail dessus. Hein. C'est vraiment brut. Mais ça m'a pas gênée, d'autant plus que je trouve que les dialogues, il faut saluer le travail de la traductrice Aude Lamy, que vous avez cité, Marie. J'ai trouvé que c'était vraiment très fort parce que elle parle un langage adolescent et on sait très bien que mettre en mots le langage adolescent est difficile, y compris en version originale. Le livre est écrit en italien, mais il a été c'est la première édition chez Saella, c'est-à-dire que il a écrit pour un éditeur français. Il a été repéré par Serge Evanzik, le fondateur des éditions Saella, et c'est lui qui lui a commandé ce livre. Donc il n'est même pas édité en italien.
En italien. Donc c'est vraiment son tout premier livre.
Voilà.
Ouais. Victor.
Je crois qu'il l'a écrit entre autres à Angoulême, puisqu'il était en résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême. Mais là, pour le coup, je partage complètement l'enthousiasme de Catherine sur les dialogues que j'ai trouvé extrêmement justes. Et ce qui m'a amusé, c'est que c'est un parler adolescent absolument actuel. Wesh, yo, j'avoue, genre, etc. Alors que, pour moi, c'est assez clair que c'est une bande dessinée qui se passe dans les années 90. Alors là, je ne sais pas si on va être d'accord, mais je me suis dit, il y a cette justesse de raconter l'adolescence d'autrefois. J'ai vu ça d'abord aux formes des voitures, mais ça, on peut dire, il y a des vieilles voitures dans ces coins.
Oui, la vieille Panda, oui, c'est possible.
Mais des ados d'aujourd'hui qui n'ont pas un téléphone portable, par exemple, on se dit, bon, c'est pas aujourd'hui. Et en revanche, le langage est celui d'aujourd'hui et ça rend, ça crée une proximité. Au lieu d'accentuer, ça aurait été idiot, ça aurait créé un décalage d'avoir un langage d'autrefois, tandis que là, c'est des ados avec ce qu'il y a d'éternel dans l'adolescence, qu'on ait des portables ou non. Et en effet, les dialogues sont très très beaux.
Et de la même manière que on ne sait pas très bien où c'est, ça peut être en Italie, on se dit que c'est en Italie puisque l'auteur est italien, mais finalement il n'y a pas beaucoup d'accroches pour savoir où on se trouve. Mmh. Donc on ne sait pas vraiment ni la période, ni l'espace, ni le temps.
Les moutons veulent du sel d'Emanuele Cantoro chez Ça et Là, c'est donc traduit de l'italien par Audelamy. Et c'est l'heure de votre coup de cœur, Victor Massé de l'Épinay. C'est pas un petit nouveau, hein ?
Eh ben non, c'est pas un petit nouveau. C'est Didier Tronchet. C'est même un grand auteur de bande dessinée. Depuis le milieu des années 80, beaucoup d'auditeurs connaissent les personnages de Raymond Calbut, de Jean-Claude Tergal, qui a peuplé les pages de Fluide Glacial. C'est loser, un peu chacun dans son genre, un peu minable, qui avec un humour assez noir et assez mélancolique. Didier Tronchet, il a fait beaucoup d'autres choses que ces personnages classiques de la bande dessinée. Il a écrit sur le vélo, sur le foot, sur la chanson, sur l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud où il a vécu, dans des albums qui prenaient des tours au fur et à mesure, au fil de sa carrière, de plus en plus autobiographiques, mais toujours très drôles, toujours avec le prisme de la fiction, plus ou moins. Et là, ça faisait quelque temps déjà qu'on voyait bien et qu'il laissait bien voir qu'au cœur de ses livres, il était là, que c'était lui, l'humoriste ringard de telle histoire, que c'était lui, le type qui part à la recherche d'un chanteur oublié dans un atoll, dans une autre histoire. On comprenait qu'il se mettait lui-même en scène à travers des doubles de fiction qui parlaient de ses doutes, de ses obsessions, de ses angoisses, et c'était toujours très juste et très touchant. Et là, Didier Tronchet arrive avec un livre qui s'appelle « Le cahier à spirale », dans lequel, d'une certaine façon, il saute le pas, puisqu'il assume maintenant totalement l'autobiographie. Voilà, il y vient après 40 ans. C'est lui qui est au cœur de ce livre. Lui, et donc on va comprendre qu'en fait, tout ce qu'il y a dans ces livres, depuis les premiers personnages dont j'ai parlé, Jean-Claude Tergal ou Raymond Calbut, il y a des fantômes qui sont ceux de sa vie, en particulier le fantôme de son père qui est mort quand il était petit, et dont on ne lui a jamais dit qu'il était mort en fait. Il y a eu un trou comme ça, il y a une sœur qui est sa sœur, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas dans les années de naissance par rapport à la mort de son père. Il y a une année mystérieuse passée en Provence, alors que lui est un petit gars du Nord et qu'il est parti un an vivre dans le Sud avec sa mère sans jamais avoir vraiment compris pourquoi. Et là, il décide d'aller explorer ça à fond et il commence par aller voir sa mère avec un cahier à spirale qui donne le titre à ce roman et d'aller l'interroger. Et sa mère, qui n'a jamais rien dit, qui est une femme du Nord, taiseuse, qui a passé sa vie à faire le ménage en serrant les dents, d'une certaine façon, et ben là, on ne sait pas trop pourquoi, elle va commencer à lui parler et à lui raconter des choses. Et donc, Didier Tronchet va peu à peu relier tous les fils et nous expliquer comment, dans toute son œuvre, lui-même s'en rend compte en écrivant le livre, enfin c'est ce qu'il met en scène, et bien tout se tient autour de cette espèce de fantôme de son père. Et il fait ça avec... On pourrait croire que ça devient complaisant, narcissique, comme on voit beaucoup de choses aujourd'hui, l'autobiographie est à la mode. Eh bien, pas du tout, il lie tous ces fils ensemble avec beaucoup de métiers, avec beaucoup de savoir-faire, d'habileté. Et avec, et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, la fiction qui est toujours là quelque part, mais non pas comme un filtre, mais comme une tentation, et qui prend la forme d'un personnage, d'un éditeur qui ressemble plus ou moins peut-être à son éditeur, et qui lui dit « mais non, mais fais-nous marrer avec tes trucs, etc. » Et il dit « mais comment faire rire avec ma vie? Est-ce que j'ai besoin encore de la fiction? Comment on se débarrasse de la fiction? Est-ce qu'il faut assumer ?» Et tout ça est très intelligent, très tendre, très drôle. Donc, moi, je trouve ça passionnant de voir cet auteur qui n'est pas un perdreau de l'année, comme vous l'avez dit, mais qui cherche encore, qui se renouvelle et qui arrive à un objet vraiment inattendu. Je crois que c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui en parle très bien, comme il parle très bien de toutes ses passions. Et je pense que vous devriez l'inviter pour en parler, Marie.
Eh bien, nous allons y songer. Merci beaucoup, Victor Massé de L'Épiné. Le cahier à spirale de Didier Tronchet, c'est chez Dupuis. La nuit des bas-fonds de Buenos Aires, c'est le terrain de jeu de la grande romancière argentine Mariana Enríquez. Mais comment mettre en image cette ambiance gothique, poisseuse? Comment donner vie à ces fantômes, à ces odeurs, à ces pestiférés? Défi relevé par Lucas Nin, qui adapte le recueil de nouvelles « Ce que nous avons perdu dans le feu ». Difficile de résumer l'intrigue qui s'enroule un peu sur elle-même. Nous sommes dans le quartier de Constitución, de nos jours, bien loin du temps de sa splendeur. Et dans cette partie de la ville, les junkies côtoient les narcos et les enfants meurent. Au milieu coule une rivière dont les noyés reviennent. On commence par un navire rapide, Victor Massé de L'Épiné.
J'ai trouvé que c'était un livre absolument fascinant, à la frontière du fantastique et de l'horreur, mais en parvenant à rester sur la frontière et à jamais basculer totalement, et en nous mettant, en me mettant moi dans une sorte de malaise et d'interrogation très étrange et très prenante.
Catherine Robin.
Je partage exactement l'avis de Victor. C'est une rencontre entre deux auteurs qui fonctionnent très très bien. Ils se complètent, ils se fertilisent même l'un l'autre. Et c'est, je trouve, une appropriation très réussie des nouvelles de Mariana Enríquez. Une vraie recréation du recueil de nouvelles originales.
Alors Victor, comment expliquer justement cette ligne de crête là, à la frontière entre le fantastique et l'horreur?
Eh ben oui, en tout cas, la ligne de crête, c'est un bon mot pour résumer ce bouquin, parce qu'on est toujours dessus. D'abord parce que on peine à trouver la ligne de crête qui unit entre elles les quatre nouvelles, parce que dans ce livre, il y a quatre nouvelles. Enfin, on peine. En même temps, il est tout le temps là, mais ce sont quatre histoires qui se passe à Buenos Aires et qui mélange, comme vous l'avez dit, des junkies, des narcos, etc., mais aussi des fantômes, des légendes urbaines, des narco-sorciers et toutes sortes d'angoisses profondes et existentielles qu'ont les personnages. Qui sont les personnages qui vont bien ne vont jamais très bien. La vie de couple ne va pas bien pour les uns ou les autres. Il y a des traumatismes de l'enfance qui remontent. Il y a quelque chose de très noir, donc ça c'est d'abord ce fil qui tient les quatre nouvelles ensemble, qui sont indépendantes les unes des autres. Et puis, cette horreur au bord de laquelle on reste, bah peut-être moi aussi, là comme pour le livre précédent, j'ai envie de commencer par parler de la forme, puisque moi j'ai pas lu les nouvelles de Mariana Enríquez, que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert avec ce livre de Carlos Nin, et là le dessin... Carlos c'était son père, voilà, Lucas Nin, son père auteur de bande dessinée aussi, mais le dessin de Lucas dans ce livre est absolument fascinant. C'est un mélange de beaucoup de techniques, de photos, de gouache je suppose, de traits à la plume, et de... Ça crée quelque chose de très composite, difficile à décrire, parfois difficile à lire. Mais alors là, pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est complètement au service de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un dessin et des cases qui sont pleines de fantômes, qui créent du trouble. On se demande ce qu'on voit. Il y a parfois des visages... en fait, il y a des bulles qui apparaissent à certains endroits, donc on comprend que c'est un visage, mais si on n'avait pas vu de bulles, on aurait pu se demander s'il y avait quelqu'un ou pas. Et voilà, donc compliqué d'en parler, je me rends compte que je mélange beaucoup de choses. Il faudrait raconter peut-être une ou l'autre de ces nouvelles, mais c'est une atmosphère très étrange, très sombre, et j'ai trouvé que ces pages étaient singulièrement mates, comme si la lumière ne brillait pas. Il y a des couleurs qui sont, voilà, les pages sont colorées, sont diverses, mais il y a quelque chose qui est très retenu dans le voilà dans l'éclairage et voilà c'est un livre qui colle qui oui. colle et qui poisse mais qui fait peur. Qui donne des cauchemars.
On peut juste effectivement rappeler la première histoire, c'est l'histoire d'un serial killer qui tue des enfants en fait.
C'est la deuxième. C'est un enfant qui tue d'autres enfants en effet, et qui est un jeune, comment s'appelle-t-il, l'enfant aux oreilles décollées. Qui a réellement existé. Je l'ai googlisé pour savoir si, puisqu'il met des photographies de ce jeune garçon, et c'est véritablement ce jeune serial killer. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une cohérence dans le choix des nouvelles parmi les 12 nouvelles qu'elle a écrites. Mariana Henriquez, Lucas Nin, il prend des nouvelles qui partent toutes de l'enfance. Hein. Il y a des enfants dans chacune. Il y a des questions autour de la maternité. Et puis surtout, il y a ce décor des rues porteñas de la ville de Buenos Aires, qui va aussi être le fil conducteur, l'arrière-plan et aussi le narrateur, parce que il va lier les quatre histoires, les quatre nouvelles, avec une méta-histoire, entre guillemets. Le livre commence avec une voiture qui explose, qui brûle, et il faut noter que le titre de la bande dessinée, c'est « Ce que nous avons perdu dans le feu », c'est le titre du recueil des 12 nouvelles. Or, la nouvelle qui s'appelle dans le livre « Ce que nous avons perdu dans le feu », qui est la dernière nouvelle du livre, qui est une nouvelle vraiment très très forte, il a choisi de ne pas l'adapter. Donc, il a plutôt choisi de l'évoquer, et c'est ça qui va être le fil conducteur. Et donc, le livre s'ouvre avec cette explosion de voiture. Il y a un conducteur ou une conductrice, on voit pas très bien cette silhouette. Et à côté, sur le siège passager, il y a le livre de Mariana Henriquez qui va se consumer. Voilà, à chaque fois, ça sera le titre de la nouvelle qui sera dans le livre en train de se consumer, et sur la page de gauche, un plan de Buenos Aires lui-même en train de se consumer. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une cohérence et d'ailleurs, on le voit, l'utilisation des photos est aussi une manière d'insister sur l'importance de Buenos Aires chez les uns et chez les autres. Il y a chez Mariana Henriquez une véritable conscience de l'Argentine contemporaine dans laquelle elle vit, avec les inégalités sociales, la pauvreté, la violence, les problèmes de folie,
la prise en charge
psychique,
des affreuses,
et ça transparaît, et elle décide de poser une espèce de filtre fantastique là-dessus, soit pour exacerber, soit pour exorciser ces plaies et ces maux de l'Argentine d'aujourd'hui.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, moi je trouve en particulier fascinant le travail que Lucas Nin fait avec les photos, parce qu'il y a beaucoup de photos dans certaines histoires, il y en a plus que d'autres, des photos des années 20, des photos plus récentes, mais elles ne sont jamais là pour donner une précision ou attester de quelque chose, pour donner une précision documentaire. En fait, il gruge avec les photos, enfin il les transforme avec beaucoup de subtilité, et ça crée ce décalage malaisant dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a une photo, on raconte l'enterrement d'un petit garçon tué par ce jeune serial killer enfant, et on voit une photo très très flou, très en noir et blanc, qui a l'air de dater d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a juste il y a deux personnages au premier plan qui sont en ombre noire, et entre ces deux personnages qui marchent dans la rue, il a gommé ou il a créé un petit vide blanc en hexagonal qui crée une forme de cercueil, et donc on a l'impression que c'est une image d'enterrement avec deux personnes qui portent un petit cercueil enfantin, alors qu'en fait certainement pas. Il a recréé cette scène à d'autres moments, puisqu'on parle de ce jeune serial killer qui s'appelait donc Petizio, qui a une tête déchirante, parce qu'évidemment c'est le visage d'un monstre, mais c'est le visage d'un enfant, un tout petit garçon aux oreilles décollées et aux yeux noirs qui regarde la photo. Et il y a des photos de criminels comme on en prend dans les commissariats, et il les transforme, et sur une de ces photos il a un grand sourire carnassier, et quand on le lit on se dit mais c'est pas possible, quelle photo horrible. Et en fait c'est une photo truquée, parce que c'est exactement la même. Si on s'amuse à regarder les yeux et la tête et les oreilles, c'est la même photo, et c'est lui qui a arranger, truquer la photo. Mais tout ça fait, la première fois qu'on la voit, on a un haut-le-cœur en se disant, parce qu'un sourire démoniaque sur le visage de ce petit garçon. Et donc, il y a les photos, il y a les dessins d'enfants aussi qui interviennent parfois. Et puis, il y a ces fantômes un peu partout en transparence. Et un signe aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Catherine, ou vous, Marie, il y a un signe qui est commun dans les quatre nouvelles. Une sorte de tag sur le mur, c'est pas le signe des cigares du pharaon, c'est un signe qui a l'air un peu satanique, un peu. Enfin, on imagine quelque chose dans l'ambiance du livre, une espèce de coque de bateau avec des voiles et un mât, enfin, un signe kabbalistique ou je sais pas quoi. Aucune explication. Mmh. On le voit, on l'aperçoit une fois dans chaque histoire. Tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça, c'était où? Ah bah, c'était dans l'histoire d'avant. Et j'ai pas cherché, j'ai pas vu d'explication. Mais il y a des choses très cryptées, comme si ce livre était lourd d'encore un certain nombre de menaces qui n'étaient même pas explicitées.
Et il faut dire que elle c'est une superstar en Argentine, Mariana Enríquez.
Oui, elle a beaucoup de succès. Moi, je ne l'avais jamais lu avant de lire son recueil de nouvelles précisément. Mais en effet, son univers parle beaucoup. Son univers fantastique, d'horreur, de disparus aussi. Il y a beaucoup de disparitions de fantômes. Et encore une fois, des milliers d'Argentins ont disparu. Bah oui. Voilà, c'est aussi, on peut difficilement le lire autrement que comme ça, mais en tout cas ce livre, moi, il m'a fait beaucoup penser dans cette alliance entre Mariana Enríquez et Lucas Nin à Luz et Virginie Despentes, en fait, et l'adaptation de Vernon Subutex, qui était pour moi une très grande réussite, qui dépassait pas le livre de Virginie Despentes, mais en tout cas qui créait quelque chose en soi. Et ben, je trouve que c'est précisément la même chose avec ces deux personnes là étaient faites pour se rencontrer, ils se connaissaient pas. C'est une revue culturelle argentine qui a commandé une nouvelle à Lucas Nin et il y a pris goût et il s'est dit qu'il allait en adapter plusieurs et en fait ils étaient prédestinés à se rencontrer. Leurs deux univers fonctionnent vraiment très bien.
Victor, un dernier mot?
Oui, sur l'articulation dessin et parole, dès la première page, on voit un dessin d'une femme avec un ventre énorme et la voix off qui dit « Est-elle enceinte ?» Est-ce qu'elle est enceinte? Avec les junkies, on ne sait jamais. Alors nous, on se dit évidemment qu'elle est enceinte, mais voilà, le décalage, le doute est instauré comme ça, avec un coin qui se met dans notre esprit en se disant tout ce qu'on va voir, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si les gens cauchemardent en permanence. Et il y a cette phrase dans les rêves, elle se demande est-ce que c'est un rêve ou un des personnages. Dans les rêves, on ne ressent pas la douleur. Et bien, je crois que ce livre de Lucas Nin n'est pas un rêve.
Merci beaucoup. Ce que nous avons perdu dans le feu, adaptation graphique de Lucas Nin du recueil de nouvelles de Mariana Enríquez, c'est aux éditions du Sous-Sol et une traduction de l'espagnol d'Anne Plantagenet. Victor Massé de l'Épinay, Catherine Robin, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture pour nous parler de bande dessinée. Évidemment, toutes les références, les infos sur ces trois albums sont à retrouver sur la page des Midi.